Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Vous les connaissez, vous les plébiscitez, nos grandes gueules de l'émission Le Grand Débat de Vivante Église, le premier vendredi de chaque mois, puisqu'il s'agit de la seule émission Vivante Église plusieurs fois citée lors de notre dernier radiodon, comme l'un des grands rendez-vous de notre antenne, et ils sont fidèles au poste aujourd'hui encore, au milieu de leurs mille et une activités pour nous décrypter l'actualité du mois. Notre choix pour ces dernières semaines, la crise au Liban, le voyage d'Emmanuel Macron en Afrique, la COP23, ou le livre du général De Villiers, et évidemment la mort de Jean d'Ormesson. Bref, restez avec nous. Le grand débat de Vivante Église, donc ce matin autour du plateau, honneur aux dames, Daniel Cabanis, toujours ancien professeur d'histoire du droit à l'université Toulousain Capitole et chroniqueuse géopolitique pour Radio Présence. Bonjour Daniel.
Bonjour Emmanuel, bonjour tout le monde.
Anne de la Doucette, toujours initiatrice de la formation Passeur d'Espérance, formation en anthropologie chrétienne en lien avec les dominicains à Toulouse. Bonjour Anne.
Bonjour Emmanuel.
Et le père Tanguy Marie Pouliquin, prêtre à la communauté des Béatitudes et professeur d'éthique à l'Institut catholique de Toulouse. Bonjour.
Bonjour à tous.
Donc ils ne sont pas tous là, parce que maintenant il y en a tellement qu'on ne peut pas tous les inviter sur le même plateau, donc on tourne, on fait tourner comme on dit. Alors, vous me suggériez à raison de commencer donc par la nouvelle qui était dans les tuyaux mais qui a été confirmée aujourd'hui. Donald Trump reconnaît donc officiellement Jérusalem comme capitale d'Israël. Ça n'est pas sans poser de questions graves, c'est semble-t-il l'application d'un accord, en tout cas d'une décision qui daterait donc de 1995, décision du Congrès américain. Et déjà, un certain nombre de voix s'élèvent. J'ai vu que le Hamas appelait à une nouvelle intifada. On va commencer par donner la parole à notre chroniqueur géopolitique pour lancer le débat, Daniel Cabanis.
Alors cette décision de Donald Trump est à la fois une surprise parce qu'on pensait qu'il n'oserait pas, et puis en même temps ce n'est pas une surprise parce que il adore provoquer et semble-t-il n'a pas toujours une pleine conscience ou affecte, j'en sais rien, de ne pas avoir une pleine conscience des conséquences de ce qu'il dit, considérant que la vie politique ça n'est qu'un tweet parmi d'autres, alors que c'est une autre paire de manches. Si évidemment les Israéliens applaudissent à tout rompre, du moins certains d'entre eux, pour la partie gauche, disons, de la vie politique israélienne, c'est une erreur, parce que ça ne peut être ressenti que comme une provocation par le monde arabe, puisqu'aucune décision n'a été prise concernant le statut des Palestiniens, que les Israéliens continuent à coloniser Jérusalem-Est, tout comme ils continuent à coloniser la banque ouest du Jourdain. Donc ça ne peut qu'envenimer les relations et donner des prétextes à des manifestations qui peuvent être violentes. L'intifada peut tourner au drame.
Alors juste redites-nous pourquoi, peut-être, pourquoi ce transfert, et puis pourquoi il est aussi violent pour les Palestiniens,
parce que
ceux qui ne sont pas familiers.
C'est vrai, j'ai eu tort de ne pas le préciser. Les lieux saints sont dans la zone qui, en tout cas jusqu'à maintenant, est une zone palestinienne. Donc mettre la main sur cet espace-là, en reconnaissant que Jérusalem est la capitale d'Israël, donc a vocation à être réunifiée sous l'autorité d'Israël exclusivement, ne peut être ressenti que comme une provocation par les Palestiniens, mais j'aurais tendance à dire par les chrétiens aussi, parce qu'on est pris exactement dans le même bain. Et ça me fait penser, je crois que je l'avais dit une fois il y a déjà très très longtemps, mais à ce qu'évoquait et souhaitait l'empereur Frédéric II, qui n'a pas été compris par la papauté à l'époque et excommunié de ce fait, mais qui disait les lieux saints sont à tout le monde. Les lieux saints doivent être internationalisés et par conséquent, tout le monde doit avoir la sécurité pour y aller prier son Dieu dans sa version à lui ou à elle, les juifs, les chrétiens, les musulmans. Là, Donald Trump donne l'avantage à Israël, mais c'est pas du tout pour faire plaisir aux chrétiens, c'est pour montrer je fais ce que je veux avec mes alliés. Donc je crois que c'est une énorme erreur stratégique qui ne peut aboutir qu'à des difficultés ou à une reculade, ce qui n'est pas bon non plus, parce que quand on recule, on est fâché, on fait immédiatement une autre bêtise. Et là, on peut être sûr de lui.
Tanguy-Marie Pouliquin.
Alors, moi, je pense qu'il faut mettre en perspective un peu historique cette situation. Du point de vue de l'Église, l'Église a eu, par rapport à Jérusalem, une succession de positions convergentes, mais distinctes. D'abord, on pourrait dire avant la création de l'État d'Israël, c'était la volonté de protéger l'intégralité physique des lieux saints, pour les chrétiens, mais aussi pour tous. Ensuite, c'était jusqu'en 67, la volonté de défendre la liberté d'accès aux lieux pour tous. Et aujourd'hui, en plus de ces deux dimensions, s'ajoute la dimension, on pourrait dire, de justice qui est le prolongement de l'application du droit international, qui fait que Jérusalem-Est, la vieille ville, est soumise au droit international et doit permettre l'accès de toutes les religions à ces lieux. Donc l'Église aujourd'hui, en plus de l'invitation à une négociation pacifique entre Israël et les Palestiniens pour la création de deux États qui cohabiteraient ensemble et qui auraient pour capitale Jérusalem, tous les deux, il y a la volonté d'un statu quo, on pourrait dire religieux, dans le sens historique de ne touchons pas à cet équilibre qui a permis une cohabitation pacifique des religions depuis longtemps. Il faut remonter à très longtemps d'ailleurs, quand Saladin a pris Jérusalem et puis a négocié avec le roi lépreux Baudouin, finalement je te reprends Jérusalem sans une effusion de sang, mais je garantis l'accès des pèlerins chrétiens à Jérusalem. Donc il y a une histoire qui est très longue d'ouverture d'une ville un peu, pas extraterritoriale, mais d'une ville ouverte à l'internationalité et qui ne se met pas en opposition aux quêtes identitaires qu'elle représente pour les trois religions monothéistes.
Anne de la Doucette.
Alors moi, quelque chose qui me pose question, peut-être que le frère Tanguy pourra me répondre, Daniel, c'est que si le Congrès a voté cette décision il y a 20 ans, pourquoi est-ce qu'on a tant mis de temps à la mettre en place et pour quelles raisons ils l'ont voté sans le mettre en place? Pourquoi est-ce que tout à coup le président Trump le mettra en place?
L'autre question que peut se poser le grand public, n'étant peut-être pas aussi familier, c'est qu'il faut dire les liens évidemment historiques entre les États-Unis et Israël, parce qu'on peut se dire voilà, c'est un pays qui reconnaît officiellement Israël comme capitale, Jérusalem comme capitale d'Israël, et les autres. Voilà, est-ce que ça suffit pour mettre le feu aux poudres? Mais évidemment, les liens sont tout à fait particuliers. Redites-le peut-être.
Bon, moi, je pense qu'il faut prendre un peu de recul par rapport à la décision, parce que on ne sait pas si il reconnaît Jérusalem-Ouest comme capitale, donc il faut attendre. Est-ce qu'il inclut Jérusalem-Est dans la reconnaissance de Jérusalem comme la capitale d'Israël? Donc derrière, il y a certainement, on pourrait dire, pour sauver un petit peu la vie de M. Trump, les Européens n'aiment pas beaucoup M. Trump, mais de dire qu'on rentre dans le grand marchandage, quoi. Politique, c'est-à-dire, en gros, t'as eu Jérusalem comme capitale, maintenant, tu négocies clairement sur la solution deux États, sur les colonisations, etc. Donc, il y a peut-être un...
Il va pousser l'État Israël?
C'est possible. En tout cas, publiquement...
C'est ce qu'il annonce, en tout cas.
Il annonce dans sa déclaration une volonté de continuer des pourparlers, et ça peut rentrer dans un grand marchandage. Monsieur Netanyahou, qui est un peu bloqué par sa grande droite, lui est en faveur, a déjà déclaré plusieurs fois qu'il était en faveur d'une solution pacifique de deux États. Alors de deux États, selon quelle dimension? Parce qu'aujourd'hui, la Palestine, c'est une grande prison, c'est un territoire mité en trois zones d'occupation, du moins en trois lieux sécuritaires distincts, une zone gérée uniquement par les Palestiniens, une zone mixte gérée avec les Israéliens et une zone gérée seulement par les Israéliens. Donc on est dans une situation de mitage qui, on peut le comprendre, et de prison, parce qu'on ne peut pas sortir. Moi, plusieurs fois, j'étais en Israël. Quand on passe les murs, il y a ces queues impressionnantes de personnes qui veulent passer de l'autre côté. Donc il n'y a pas de liberté de mouvement. Et ça... avec la lecture que l'on a de l'histoire après la Seconde Guerre mondiale, on se dit que c'est irrecevable, irrecevable.
Daniel Cabanis, peut-être pour répondre en partie à la question d'Anne, auquel le père Tanguy n'a pas tout à fait répondu. Est-ce qu'il y a une explication au fait qu'on met qu'on mette autant de temps à appliquer ce qui avait été, semble-t-il, décidé précédemment ?
Je ne crois pas. Enfin, il y a sans doute des hésitations, mais je crois que la principale tient à ce que, même si le Congrès avait voté cette idée que l'ambassade des États-Unis pourrait être à Israël, ça n'était pas à 100%, je crois, la reconnaissance de Jérusalem en tant que capitale unique d'une ville unique qui serait la capitale d'Israël. Donc, en raison des incertitudes sur l'étendue de la capitale, donc de la localisation de l'ambassade, il paraissait bien plus simple de temporiser plutôt que de provoquer. Et puis, si Israël et les États-Unis ont entretenu et entretiennent toujours d'ailleurs des liens extrêmement privilégiés, il y a un lobby pro-israélien très très important aux États-Unis, ce qui n'a rien d'illégal, il y a rien à en dire. C'est un fait, mais qui influence la politique des présidents successifs. Les États-Unis n'ont pas qu'Israël comme allié. Ils avaient des liens privilégiés avec un certain nombre de pays arabes, notamment l'Arabie saoudite, pour qui il était impensable de faire une telle provocation, ce qui était ressenti par eux comme une provocation, s'il n'y avait pas des avancées sérieuses et des garanties sérieuses en faveur des Palestiniens, ce qu'évoquait le père tout à l'heure.
Alors, je propose d'avancer, de passer maintenant au Liban. C'est un peu plus ancien, ça date donc de début novembre. Donc, Saïd Hariri, Premier ministre, annoncé depuis l'Arabie Saoudite, donc il démissionnait de sa fonction. S'en est suivi un certain nombre de, comment dire, d'événements que je vais essayer de résumer rapidement. Le président Michel Aoun, donc, a annoncé, a dit publiquement qu'il craignait que l'Arabie Saoudite ait choisi de détenir M. Hariri, puisqu'il a fait ça donc depuis l'Arabie Saoudite, il a lancé cette décision. S'en est suivi, entre autres, un voyage le 14 novembre du patriarche maronite, le cardinal Béchara Rai, visite historique en Arabie Saoudite, essayant donc de résoudre la crise. Et puis est arrivé Emmanuel Macron, qui a fait une visite éclair donc à Riyad, et qui semble avoir contribué au dénouement de la crise. En tout cas, ça a été présenté comme un vrai succès diplomatique, proposant une porte de sortie à chacun et proposant à M. Hariri de passer par la France pour ensuite regagner le Liban. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, il y a une forme de dénouement, puisque M. Hariri a annoncé qu'il allait revenir, qu'il revenait sur sa décision de démission. Derrière tout ça, il y a tout un, comment dire, j'allais dire un mercato, mais le mot est probablement mal choisi. Un jeu d'équilibre politique.
Il y a bien des milliards en jeu.
Un jeu d'équilibre politique très subtil. Première chose, est-ce que vous pouvez compléter peut-être la courte présentation, Daniel, et après nous dire ce que cela cache comme enjeu ?
La très grande difficulté du Liban, c'est que c'est à la fois un État presque inexistant, tellement s'exerce en son sein des pouvoirs, des exercices de puissance qui sont centrifuges, ce qui signifie que l'unité de ce petit pays est constamment menacée, alors qu'il avait construit par un système constitutionnel extrêmement compliqué une sorte d'équilibre donnant à chaque camp.
Rappelez quoi ? Le président est historiquement chrétien.
Le président est historiquement chrétien, le premier ministre est historiquement musulman, et puis après on essaye de répartir de manière sunnite. Oui.
Et l'Assemblée nationale et chiite.
Voilà. Donc dans ces conditions-là, on espérait qu'on arriverait à tenir et restaurer la prospérité du Liban, qui pendant très longtemps a été l'État le plus prospère de la région, qui en a perdu beaucoup du fait des guerres successives qui l'ont ravagé, mais est quand même passablement remonté. Il a recréé quand même des sources de richesse et de prospérité, et pas mal de Libanais qui étaient partis sont revenus, ou en tout cas reviennent très régulièrement, réinvestissent dans leur pays d'origine, ce qui est un principe un bon signe. Le gros problème, c'est la présence du Hezbollah qui a des volontés de prendre sa part au jeu de manière plus forte. Et puis les jeux compliqués que se livrent les puissances périphériques du
rappeler
du
les liens
Liban.
Peut-être justement ben entre le Hezbollah et d'autres puissances.
En particulier la Syrie qui a toujours essayé de mettre la main sur le Liban, qui a failli y parvenir complètement il n'y a pas si longtemps que cela, et qui finalement a dû reculer dans ses intentions d'absorption. Et puis plus loin, sans que ce soit des États directement frontaliers, la Russie est très intéressée à ce qui se passe au Liban parce que c'est à côté des ports qu'elle aimerait avoir à disposition pour un accès direct à la Méditerranée, parce que bon, elle a bien la mer Noire avec ce qu'elle a conquis.
On dit que c'est une des raisons d'engagement de la Russie aussi dans le conflit syrien.
Tout à fait.
Sa seule base navale, elle est attaquée. Hein.
Voilà. Donc il y a des intérêts stratégiques extrêmement compliqués.
Mais alors pourquoi Saïd Hariri donc a présenté cette démission pour finir d'expliquer la situation? C'est donc il reprochait, en tout cas c'est ce qu'on a lu, il reprochait donc le président Michel Aoun avait fait une alliance donc avec le Hezbollah, donc chiite lié à l'Iran, et il accuse en fait le Hezbollah de trop déstabiliser et l'Iran de prendre trop de place en fait indirectement dans la vie politique
de son pays et de la région en général, donc
en Syrie notamment,
voilà. Et donc de ce point de vue-là, il est ce qui est paradoxal, mais relativement proche de la position d'Israël, qui est extrêmement critique à l'égard des chiites.
Anne, qu'est-ce que vous avez...
Et l'Iran, qui est son grand ennemi.
Wow. Qu'avez-vous compris de la situation ou quel éclairage vous souhaitez apporter?
Moi, j'ai l'impression que dans ce petit pays, finalement, se cristallisent, par personne interposée, tous les conflits des pays autour, puisqu'il a à la fois des chiites, des sunnites, des chrétiens... on sent que l'Iran est d'un côté, que Riyad de l'autre côté, et que chacun tire un peu sa couverture à soi à travers les différents responsables politiques. Parce que s'il a été il est parti en Arabie Saoudite, c'est parce que justement l'Arabie Saoudite s'inquiétait de la puissance de la montée du Hezbollah au Liban et a voulu mettre un frein. Et par cette crainte des montées des chiites en Iran et Bachar al-Assad qui reprenait du pouvoir. Donc c'est, en fait, il cristallise des conflits de pouvoir entre grandes puissances tout autour de lui, et il en fait un peu les frais, et est à la fois le petit champ sur lequel ces grandes puissances peuvent voir comment se mettent en place les différentes forces.
Est-ce que vous saluez l'exploit diplomatique? Je ne sais pas si exploit, c'est peut-être pas le mot qui a été utilisé dans la presse, mais on a dit que c'était un coup de maître qui aidait la France à reprendre pied dans cette zone.
Alors, moi je trouve que oui, je suis assez admirative de ce qu'a fait Emmanuel Macron, parce qu'il est arrivé d'abord à ce que chacun reparte à peu près la tête haute, que ce soit le Premier ministre libanais, que ce soit Riyad, que ce soit le Hezbollah et Michel Aoun. Et puis lui, il a repositionné la France dans une région où on avait quand même perdu un peu d'influence, profitant que M. Trump soit un peu moins là, que les Anglais soient prêts avec leur Brexit, que les Allemands ne soient pas trop concernés par la question. On s'est réimporté. Il faut dire que la France avait quand même un mandat et sur la Syrie et sur le Liban. Donc on avait pendant très très longtemps une puissance depuis 1920. On avait quand même des liens très forts avec ces pays qu'on a toujours. Et là, on sent qu'il a renoué, qu'il a voulu se poser en diplomate, en ambassadeur de la paix dans cette région et chapeau.
Ce que j'ai compris juste avant de vous donner la parole, Tanguy-Marie Pouliquen, c'est que là où tout le monde sort la tête haute, c'est que Michel Aoun, en étant ferme à l'égard de l'Arabie Saoudite, se serait posé donc en père de la nation. L'Arabie Saoudite, enfin Emmanuel Macron, après avoir été récemment ferme avec l'Arabie Saoudite, en invitant Saïd Hariri à Paris, lui évite en fait que Saïd Hariri rentrant directement au Liban soit accueilli en héros, et il permet au final quand même à Saïd Hariri de retourner dans son pays. Est-ce que qu'ajouteriez-vous à ces analyses, Guy-Marie Pouliquen?
Il faut jouer à fond le principe de réalité, d'ailleurs à plusieurs niveaux. D'ailleurs, d'abord au plan de vue sécuritaire personnel, il faut se rappeler que papa Hariri, a été assassiné. Voilà, alors on accuse directement, indirectement, le Hezbollah et les Syriens d'être à la source de cette mise à mort de son père. On peut comprendre qu'il est les jetons, voilà. Donc on peut comprendre, il a une famille, il a des intérêts personnels, etc. Le deuxième point, c'est que je pense qu'il faut prendre aussi, là aussi, un recul historique. est situé dans la stratégie Kissinger des années 70, qui disait, Kissinger, qu'il faut autour d'Israël créer des lieux de tension pour déplacer la tension d'Israël vers les périphéries. L'Égypte, Jordanie, et bien sûr, c'est Israël, c'est le Liban qu'on a fait le plus les frais. Les guerres du Liban, les problèmes palestiniens, et aujourd'hui, le fief du Hezbollah, qui est un État dans l'État, etc. Donc on a, d'un point de vue historique, une application de la stratégie de déplacement des lieux de tension au Proche-Orient, et c'est le Liban qui en fait les frais. Après, dans la géopolitique, il y a la place de l'Iran croissante, qui maintenant arrive d'une certaine manière à faire une continuité territoriale qui va de Téhéran à la Méditerranée, en passant par le nord de l'Irak, en passant par le nord de la Syrie et en passant par le Hezbollah au Liban. Donc il y a une volonté de lutte d'influence entre les sunnites et les chiites. Une rivalité historique.
Chiite-Iran, sunnite, Arabie
Saoudite. Ouais. Une rivalité historique qui trouve des lieux de tension puissants. Et un dernier élément que je voudrais dire, c'est sur le terrain. Nous, on a une communauté au Liban. Moi, j'étais au Liban plusieurs fois. C'est un pays de saints. C'est un pays de saints. C'est-à-dire que les Libanais ont été magnifiques avec les Syriens, avec les réfugiés syriens.
Il faut rappeler combien de réfugiés déjà ?
Plus d'un million.
Et c'est fait quoi ? Ça fait
Ça fait 20% de la population. Oui. C'est-à-dire que il y a eu un accueil, une proximité, l'accueil des migrants, pour reprendre une terminologie usitée aujourd'hui, exemplaire, et que ça se vit dans une certaine paix sociale réelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de violence, il n'y a pas de zone insécuritaire majeure, le pays est...
Parce qu'ils ne sont pas seulement dans les camps, ils sont scolarisés.
Ils sont scolarisés, ils sont... Donc le pays est quand même... vit dans la paix. Peut-être qu'à la frontière avec la Syrie, etc. Mais il y a un rôle, on pourrait dire, pacifiant de l'armée libanaise, qui est interconfessionnelle, hein, et qui a une certaine notoriété, une acceptabilité sociale majeure et qui est respectée. Donc on ne peut pas dire que c'est le chaos. On garde l'art de vivre libanais. Les Libanais, ils ont une résilience incroyable, ils sont capables d'accueillir. Et puis, ils ne sont pas fatalistes, mais ils ont une capacité d'ironie sur eux-mêmes et une capacité de se projeter en regardant le meilleur. Voilà. Ce que j'aimerais dire, c'est que, aussi d'un point de vue politique, historique, depuis les accords de Taïf, hein, qui ont été...
Rapidement, juste en deux mots, les accords de Taïf.
C'est les accords de Taïf qu'on redéfinit l'équilibre constitutionnel du Liban. C'est-à-dire, on l'a grignoté, en gros, sur les pouvoirs de la présidence chrétienne, en raison d'une augmentation historique de la population non chrétienne, population chiite, surtout. Les chrétiens sont 30-35% de la population aujourd'hui. Et donc, la Syrie, avec les Libanais, et puis l'Arabie Saoudite, tarifs en Arabie Saoudite, ont renégocié, en contrepoint de l'invasion de la Syrie sur le Liban, dans la même mise, il y a une reconfiguration des rapports de force, une baisse des pouvoirs, et aujourd'hui, les chrétiens, cette baisse des pouvoirs, paradoxalement, elle maintient un équilibre politique acceptable par tout le monde.
On fait une première pause et on vous retrouve tout de suite après.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Émission Vivante Église, attention, on est en direct, émission Vivante Église ce matin, donc le grand débat de Vivante Église avec autour du plateau, je vous rappelle, Anne de la Doucette, de la formation, enfin voilà, qui a initié cette formation Passeur d'Espérance en anthropologie chrétienne avec les Dominicains de Toulouse, Tanguy-Marie Pouliquen, prêtre de la communauté des Béatitudes, professeur d'éthique à l'Institut catholique de Toulouse et Daniel Cabanis, entre autres chroniqueuse géopolitique pour Radio Présence. Alors, on s'était donné comme sujet, entre autres, de parler du voyage d'Emmanuel Macron en Afrique. Voilà, Emmanuel Macron est donc allé en Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et au Ghana, et ce, donc, fin novembre. Il a lancé à l'Afrique, on va dire, un grand défi, disant qu'elle devait faire face à un défi civilisationnel. Et si j'ai bien compris, il aurait essayé de positionner la France, trouver un nouveau positionnement politique pour la France en Afrique. Il a eu quelques mots sur la période coloniale, qualifiant les crimes de la colonisation européenne, disant que les crimes de la colonisation européenne sont incontestables, donc voulant tourner cette page, un passé qui doit passer. Une conception française de l'Afrique, la fameuse France-Afrique dont on a parlé, qui était en fait une manière, via des différents intérêts économiques et politiques, de continuer à faire vivre peut-être une mainmise de la France. Là, ça serait, la primauté à une coopération pour travailler au développement de l'Afrique. Je fais court. Il a entre autres promis que la France porterait à 0,5%. 55% de son PIB d'ici à 2022, l'aide au développement en Afrique et d'autres choses que je citerai après. On commence toujours par vous, Daniel Cabanis.
Alors, ces déclarations du président Macron sont effectivement très, très intéressantes parce que elles sont pleines de détermination. Et sur d'autres terrains, on a vu que lorsque le président s'engageait, il y avait des effets qui suivaient. Donc, on peut espérer qu'on ne soit pas dans le registre très classique des paroles qu'on connaît trop. Cela étant, il s'attaque à quelque chose d'extraordinairement difficile parce que son discours est globalement rationnel. Lorsqu'il dit à un gamin qu'il interpelle sur les crimes de la colonisation, quel âge avez-vous? Vous ne l'avez pas connu, moi non plus, il est temps de tourner la page. Je crois qu'il a en partie raison, parce que à force de ressasser les vieilles rancœurs, on finit par ne rien faire. Un exemple où on a su ne pas le faire, c'est avec l'Allemagne. On arrive quand même à travailler ensemble alors qu'on avait un passif qui était extraordinairement lourd. Donc on peut imaginer qu'il y ait une façon de travailler ensemble efficacement sans toujours se jeter à la figure un passé, certes largement déplorable, mais qui n'a quand même pas été que cela, et puis essayer de construire quelque chose sur des bases nouvelles.
Est-ce que c'est le premier président français à tenir ce type de discours? Parce que la France-Afrique, c'était pas déjà fini? Enfin, est-ce qu'il... Est-ce
mais
qu'il...
de toute façon...
Et qu'est-ce que ça veut dire que la France-Afrique est finie? Parce que ça peut donner lieu à l'impression que c'est une déclaration d'intention.
Mais de toute façon, ça ne veut rien dire, parce que c'est une question d'interprétation. Si on considère que dès lors qu'une société française travaille dans un pays africain, que ce soit dans de l'extraction de minerais ou autres ressources, ou dans l'exploitation, je ne sais pas, de ressources agricoles, enfin peu importe, voire une société de service, que dès lors qu'elle le fait en Afrique, c'est qu'elle n'en tire que des bénéfices et que les Africains sont nécessairement des victimes, ben, ces discours-là signifient que la France-Afrique existe encore.
Je pensais plus à la présence militaire. On se doute qu'il y a une présence militaire, gratuite.
Il y a une présence militaire en Afrique, mais dans de nombreux cas, et d'ailleurs on peut se demander si c'est une bonne chose, c'est encore un débat qui est très compliqué, mais cette présence est une présence qui a été sollicitée par des gouvernements locaux. L'exemple peut-être le plus clair, c'est à l'intérieur des États du Sahel, la demande qui avait été formulée extrêmement clairement, extrêmement explicitement par le Mali. C'est pas de la France-Afrique, là on est dans du droit international, et on peut imaginer que pour les Africains, ce soit moins compliqué, à défaut d'être plus facile, parce que ça reste difficile, d'avoir des soldats francophones qui ont une certaine culture de l'Afrique, du moins certains d'entre eux, que des gens qui viendraient, par exemple, d'Asie du Sud-Est, qui auraient certainement des tas de qualités personnelles, mais qui seraient complètement dépaysé. De toute manière, on court toujours le risque, dès lors qu'il y a une présence extérieure, elle soit rejetée. Regardez ce qui se passe en Haïti, où il y a 7 ans, je crois que c'était le grand tremblement de terre, les milliards sont arrivés, à peu près la moitié a été versée, donc c'était quand même 5 milliards, et où la population locale considère qu'on n'a rien fait, considère que les Américains sont une fois de plus et toujours plus des exploiteurs, ça mériterait d'être détricoté. Il y a sans doute une part de vérité là-dedans, mais je crois qu'il faut, savoir ce que l'on veut. Si l'on veut véritablement coopérer, ben, ça signifie que par la force des choses, il y aura en l'occurrence des Français en Afrique, de même qu'il y a des Anglais, des Néerlandais, des Chinois aussi, et peut-être encore bien plus, avec des intentions peut-être encore plus intéressées. Je crois qu'il faut, arrêter de se lancer des invectives et définir des projets qui soient des projets, et c'est faisable, gagnant-gagnant.
Voilà, je citerai juste, parmi toutes ces déclarations, l'Afrique est un continent incontournable, car c'est ici que se télescopent tous les défis contemporains, terrorisme, changement climatique, pauvreté, démographie, urbanisation. C'est en Afrique que se jouera une partie du basculement mondial. Basculement du monde. Anne de la Doucette, sur ce sujet.
Alors moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il fait partie, Emmanuel Macron, d'une autre génération par rapport à ses prédécesseurs, comme justement il n'a pas connu la colonisation et qu'il a vu une vue sur l'Afrique qui peut être différente. Dans la mesure, il ne se sent pas tenu par cette colonisation, il n'y a pas ce truc qui lui colle à la peau, et qu'il voit une autre forme de rapport avec l'Afrique, donc une rapport économique. Et le fait qu'il se soit entretenu devant les étudiants en leur disant « c'est votre responsabilité, après tout, là, c'est votre pays, c'est à vous de vous prendre en charge, c'est à vous ». C'était aussi
De travailler aux transitions politiques.
C'était un peu aussi une manière indirecte de dire à ces présidents qui étaient là quelquefois depuis sa naissance à lui, au pouvoir, voilà, peut-être qu'on va peut-être pouvoir passer à autre chose. Il y a une autre chose qui m'a frappée, c'est qu'il a parlé aussi des questions de religion, sans nommer les religions, surtout les fanatismes religieux et le danger du fanatisme religieux et de... Bon, il n'a pas sauté de religion, mais c'était intéressant cette intervention sur la spiritualité et le danger de... Ben, je pense ce qu'on voit au Nigeria, ce qui se passe... voilà.
Je pensais que
mais il y a vraiment une je pense qu'avec lui, on peut commencer à avoir une nouvelle type de relation avec l'Afrique, parce que c'est une nouvelle génération qui arrive avec des notions d'homme politique, de diplomate, mais aussi de businessman, et on parle plus sur le même ton. On n'est plus dans un rapport de je te donne de l'argent. Non, on est dans un rapport maintenant, on échange, on travaille ensemble, d'accord, mais c'est dans un but commun d'avancer.
Une nouvelle vision de la francophonie moins défensive. Voilà, je pense que ça peut rejoindre la ligne politique. Tanguy-Marie Pouliquen.
Alors moi, je pense qu'en complément de ce qui a été dit, on peut réfléchir à la philosophie politique qui accompagne la pensée de M. Macron. Et il y a cette notion qui reprend au philosophe Ricoeur, mais aussi surtout à un ancien prix Nobel qui s'appelle Amartya Sen. Ça croise les deux mêmes idées. Ricoeur travaille sur la potentialité et Sen travaille sur la capacité. Je m'explique. Ça veut dire que la philosophie politique, la responsabilité d'un chef de gouvernement, c'est de dire vous avez les capacités d'aller de l'avant. Vous avez les capacités. On voit bien en France, il est sur cette ligne, au niveau par exemple de la formation
professionnelle. C'est moins paternaliste en gros.
Oui, c'est-à-dire que l'Afrique, les grands penseurs africains en éthique sociale, Kamana, ils disent, l'Afrique, ben, c'est aux Africains de résilier, d'être dans la résilience, de lancer des start-up, etc. Et son discours à la jeunesse burkinabèse, à Ouagadougou, c'est de dire l'avenir est entre vos mains. Vous voyez, la notion de capacité, c'est un peu abstrait, mais c'est-à-dire, en nous, on a cette capacité, vous avez cette capacité, les Français ont cette capacité de prendre leur destin en main, et c'est à vous de mettre tout ça en œuvre. Et de subordonner, après sa deuxième grande idée, on va dire politique, c'est de subordonner la politique à l'action de gens compétents, à l'action des experts, voilà. Et donc c'est un peu saint-simonien de dire tout ça, mais ça veut dire que on parie, il n'y a pas de destin, il n'y a pas de fatalité. Il y a une disruption possible de l'histoire. On peut réagir à l'histoire. On peut réorienter l'histoire. L'Afrique peut réorienter son histoire si elle prend en main par elle-même son destin. Et le fait très concret, lorsqu'il a discuté avec les jeunes au Burkina, à un moment, il y a eu question-réponse. Il y a un jeune qui dit et pourquoi dans les universités, alors, on nous fait des coupures d'électricité? Et à ce moment-là, le président est sorti, parce qu'il n'était pas content de la question. Et Macron lui a dit viens voir, il y a une bonne question pour toi. Voilà. La politique africaine contrôle la jeunesse aussi par le levier social, par le levier économique et par l'électricité. Voilà. Alors, la résilience, elle est inscrite au cœur de chacun. Voilà. Et puis, il y a un enjeu stratégique à long terme. L'Afrique, en 2100, c'est 40% de la population de la planète. Donc, la pression migratoire, si on ne développe pas les compétences de l'Afrique chez elle, ils viendront chez nous et on aura une pression migratoire multipliée par 5. Voilà.
Alors, on retrouve tout à fait Max Weber et l'éthique du protestantisme, qui a d'ailleurs beaucoup inspiré Paul Ricoeur, et c'est pas par hasard.
En quels termes?
À savoir qu'on est...
Perdez pas trop nos auditeurs, mais allez-y, c'est...
Oh, excusez-moi, on est maître de son destin, on doit le mériter, on doit se prendre en main et ne pas attendre que les carottes arrivent toutes cuites avec les cailles rôties dans l'assiette.
Alors, on va atterrir en France et on va passer à l'écriture inclusive. Voilà. Alors, l'écriture inclusive, pour ceux qui ne sont pas au courant, ça serait de nouvelles règles orthographiques qui pourraient débarquer et qui commencent presque à débarquer puisque le débat a été, la polémique a été lancée puisque les éditions Attier ont lancé un manuel scolaire de CE2 publié il y a quelques mois, avec ces nouvelles règles d'accord orthographique. Alors, je vais essayer de les résumer. Il y aurait trois nouvelles règles. La première, c'est de mentionner par ordre alphabétique les termes au féminin et au masculin. En gros, ça veut dire quand on dit les hommes et les femmes, on dit « sont belles ». Utiliser un point pour mieux marquer le genre des mots, par exemple « les chefs .fe.s ». Et troisième, ne plus utiliser les majuscules de prestige hommes et femmes. Par exemple, on dirait plus droit de l'homme, mais droit humain avec un petit h. Voilà. Alors, il y a des gens qui sont pour, puisqu'il y a eu une pétition d'un certain nombre d'enseignants, plus de 300 enseignants, je ne retrouve plus dans quelle publication, invitant à cette modification. C'était sur le site slate.fr, c'était le 7 novembre dernier. Plus de 300 professeurs du primaire qui étaient pour, et l'Académie française s'est levée comme un seul homme, je pourrais citer, parlant de péril mortel, la démultiplication des marques orthographiques et syntaxiques induit aboutit à une langue désunie, disparate dans son expression, créant une confusion qui confine à l'illisibilité. Allez-vous être d'accord tous les trois sur ces droits humains? Anne.
Ben moi, je trouve ça assez incongru comme idée de vouloir transformer l'écriture pour arriver à l'égalité homme-femme. Je trouve que c'est l'égalité, c'est le droit social. Mais dans l'écriture, je ne vois pas en quoi mettre une écriture au féminin augmentera les droits des femmes dans la société. Ça me paraît un petit peu incongru. D'autre part, une langue, ou même surtout écrite, ne se décrète pas par décret. Ou par... Elle évolue autour du temps.
En général, l'Académie française entérine des évolutions. On ne décrète pas des évolutions.
Voilà, on ne décrète pas tout à coup une évolution. On ne va pas décréter que l'imparfait va disparaître. On ne va pas décréter. C'est l'évolution de la langue qui petit à petit passe par l'écrit. La langue orale qui petit à petit passe par l'écrit. Et l'Académie française le constate et l'accepte ou l'accepte pas. Donc c'est une évolution qui se fait au fur et à mesure du temps. Et cette façon de faire est absolument aussi étonnante. Troisième point qui me paraît important, c'est que pour les enfants, déjà, on a beaucoup d'enfants qui sont un petit peu, ont du mal à lire. Apprendre à lire avec de tels et à écrire avec de tels principes, c'est un petit peu compliqué. Quelles vont être les nouvelles règles orthographiques? Alors, est-ce que si vous oubliez le ES, vous aurez un affreux macho. Le pauvre petit garçon à l'école sera traité une macho et aura un bonnet d'âne parce qu'il sera traité une macho. On prend un petit peu les enfants en otage, en fait. Je trouve qu'un peu comme la théorie du genre, les enfants deviennent un peu les otages de cette nouvelle idée des féministes. Je n'ai rien contre les féministes quand elles ont des bonnes idées, mais là, ça me paraît un peu déplacé. Surtout que le gouvernement a bien dit qu'il ne pratiquerait pas l'écriture inclusive. Donc voilà, on ne peut pas demander aux enfants de pratiquer l'écriture inclusive et les ministres ne peuvent pas le faire. Donc il faut quand même, dans la société, au niveau des écritures, une règle commune. Mais bon,
le ministre de l'Éducation nationale a dit que c'était non. Alors juste, tout n'est pas parti des éditions Hatier, hein. C'est en 2015. Le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes avait publié un guide incitant les pouvoirs publics à adopter une communication sans stéréotype de texte. Voilà. Alors, ça serait donc une suite.
De qui est composé le Haut Comité hein?
Plus d'hommes que de femmes, je ne sais pas. Tanguy-Marie Pouliquen.
Alors, moi, je pense qu'il y a...
Et puis après, on va passer à Jean d'Ormesson.
C'est là la problématique. La problématique, c'est la même que celle de la théorie du genre. C'est un égalitarisme. Alors que la vocation de l'homme, la place de l'homme et de la femme, c'est pas de vouloir une égalité absolument parfaite. C'est de s'inscrire dans une vocation de complémentarité. L'homme et la femme sont complémentaires. L'humain, c'est l'homme et la femme dans une relation de qualité, souligne Jean-Paul II. L'humain, c'est l'unité des deux. Donc c'est la complémentarité. Donc vouloir absolument distinguer et mettre l'accent sur la singularité, sans avant tout souligner l'appartenance à une même humanité, à un même projet commun, c'est entrer, on pourrait dire d'un point de vue philosophique, dans une dialectique un peu mortifère. Et en son temps, même si c'est peut-être un peu compliqué pour les auditeurs, le grand philosophe Gaston Fessard disait « Il faut que la relation homme-femme soit portée par une dialectique de la reconnaissance. » Donc aujourd'hui, l'enjeu social, c'est pas d'affirmer les égalités au sens strict, c'est de faire grandir une culture de l'altérité relationnelle, de l'altérité complémentaire, et de dire en quoi l'homme et la femme sont une richesse l'un pour l'autre, et en quoi ils se complètent l'un l'autre, et l'un avec l'autre, ils décrivent un plus d'humanité.
Alors, je vais, pour respecter l'égalité, parfaite, je vais passer à un autre sujet, Daniel Cabanis, sinon on va m'accuser de favoritisme. Et je vais avoir là Alde, qui est le Haut Conseil de l'égalité des hommes et des femmes, qui n'a que ça à faire d'écouter Vivante Église, qui va me tomber dessus. Je voudrais qu'on finisse avec donc, la mort de Jean d'Ormesson. Donc, Jean d'Ormesson est décédé, c'était donc mardi 5 décembre de cette semaine, à l'âge de 92 ans. Si je dois le présenter très brièvement, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, donc il a été directeur du Figaro pendant près de 40 ans. J'ai découvert ça, oui, je le sais.
Trois ans, pardon.
En tout cas, non, il a été directeur du Figaro pendant 3 ans, mais c'était un peu la figure, c'est-à-dire de proue.
Il
chroniquait dans le Figaro, et du coup, il représentait quelque part un peu, en partie, l'esprit du Figaro. C'était aussi un écrivain à succès, et c'était le doyen des académiciens. Juste écrivain à succès, Éric Dupri, qui s'occupe un peu des émissions littéraires ou autres ici dans cette radio, me disait qu'en fait, il n'y avait pas tant d'écrivains que ça en France qui vivaient de leurs plumes. Lui en vivait. Par exemple, j'ai noté l'extraordinaire succès de la Bibliothèque idéale. C'était 1,5 million de lecteurs. Voilà. Que vous inspire cet homme qui était avec de multiples facettes et voilà, riche, une personnalité riche et auquel les Français, dans leur ensemble, étaient, on va dire, toute sensibilité confondue, souvent assez attachés. Daniel Cabanis.
Jean d'Ormesson incarne, sans idéaliser, mais une certaine vision de la France dans ce qu'elle peut avoir de meilleur, c'est-à-dire la culture, c'est-à-dire l'ouverture, une très grande finesse, et puis la construction d'une œuvre qui est riche parce que elle mélange le vécu. On retrouve beaucoup de sa vie personnelle dans ses romans, et puis les passions qu'il a pu avoir pour certaines zones, notamment l'Italie, notamment Venise, qu'on pense à ce magnifique roman qu'est la Douane de mer. Et au-delà d'une certaine légèreté qu'il a toujours voulu afficher, il faut cultiver le bonheur, il faut le chercher, il faut dominer les difficultés, parce qu'il en a eu aussi, et ne pas ennuyer les autres avec cela. Il a souvent tiré vers la lecture des gens qui parfois étaient un peu assommé par une littérature romanesque systématiquement sombre, noire, perverse. Lui-même n'était pas un parangon de vertu et ne l'a jamais prétendu, mais il présentait des personnages qui avaient quand même toujours quelques très très beaux côtés. Il y avait une dynamique plutôt positive dans ce qu'il écrivait, et puis un style qui est magnifique. Il a une richesse de vocabulaire qui est extraordinaire, une construction de phrases qui est belle. Moi, j'avoue avoir lu, sinon la totalité, du moins en tout cas les 4/5 de ce qu'il a écrit, avec un véritable bonheur.
Tanguy-Marie Pouliquen.
Alors, citons Jean d'Ormesson. D'abord sur le bonheur. Le bonheur n'est pas un exercice narcissique et solitaire, il tombe comme par hasard sur la tête et dans le cœur de ceux qui, loin de s'occuper d'eux-mêmes, s'occupent plutôt d'autre chose et des autres. Donc une sorte d'un altruisme. Un homme qui était ouvert à tout le monde et qui était tellement empathique avec tout le monde que tout le monde finissait par l'aimer. Mais vers quelle altérité était porté cet homme? D'un point de vue spirituel et métaphysique, il y a des réponses qu'il n'a pas trouvées. Un petit texte qu'il a écrit sur la mort. « Nous ignorons d'où nous venons, nous ignorons où nous allons, nous sommes tous des égarés. » Il y a quelque chose de tragique quand même dans ce genre d'affirmation. On sent que c'est un homme qui était ouvert, qui était en chemin, mais qui d'un point de vue, on pourrait dire, si on peut classifier, était un agnostique spirituel en chemin, qui cherchait son destin. Il dit « Je ne sais pas si Dieu existe, mais depuis toujours, je l'espère avec force. » Il y a comme une tension en lui entre l'attente d'une transcendance et la recherche d'une transcendance. Et lorsqu'il parlait du Christ, il parlait du Christ comme un exemple, comme un héros, mais non pas comme une puissance de salut, de vie. Donc, à l'image des Français, moi je trouve, il représente pas mal la position agnostique des Français, qui sont vigilants intellectuellement, qui sont dynamiques, qui cherchent, mais qui parfois n'ont pas encore trouvé ce sens, on pourrait dire, ultime de l'existence, qui peut les emmener et leur faire voir le but de la vie.
Anne de la Doucette, pour finir.
Alors oui, peut-être, mais à la différence quand même des générations qui arrivent, c'est qu'il a quand même une formation littéraire, philosophique, judéo-chrétienne extrêmement forte. Donc il avait des moyens de repères que n'ont peut-être pas les générations qui arrivent aujourd'hui. Pour moi, je crois qu'il incarne avec excellence l'identité française, en France comme à l'étranger, en Europe. C'est-à-dire, c'est un véritable gentilhomme par son côté. Je me rappelle, on l'avait sollicité pour Lourdes, j'avais écrit pour Lourdes pour avoir recevoir de l'argent pour aider pour Lourdes, et nous avait répondu, il avait envoyé de l'argent, donc c'est un humain proche des gens. C'est à la fois un homme plein d'esprit, c'est à la fois un homme qui est ouvert à l'Europe, qui est ouvert au monde, et ça incarne l'identité française dans ce qu'elle a de meilleur. Cette capacité de profiter de la vie, cette capacité des bonnes choses, aimer les belles choses, l'ouverture à l'autre totale, avec sa différence. Parce que comme il a 92 ans, il était encore extrêmement ouvert sur ce qui se passait, la politique, voilà.
La dernière interview de Monique Fauché était une pure merveille.
C'est vrai que Monique l'avait reçue plusieurs fois. Je crois d'ailleurs qu'il y a quelques best-of qui circulent sur le site internet. Je finirai juste l'émission en citant, c'était dans l'édito de Guillaume Goubert, donc en date du journal La Croix, du mercredi 6 décembre. Il donne ces deux citations de Jean d'Ormesson que j'ai trouvées très belles. « Personne ne peut se prétendre heureux avant d'être mort », qui dit probablement toute l'ambiguïté de la recherche de cet homme. Il ajoutait, Guillaume Goubert, donc éditorialiste de La Croix, donne cette autre citation, « La charité et l'amour pour les hommes de ceux qui ne croient pas en Dieu, un enfant soudain, n'importe où, dans la rue ou à la maison. » Voilà, j'ai trouvé que je vais même la répéter, « La charité et l'amour pour les hommes de ceux qui ne croient pas en Dieu, un enfant soudain, n'importe où, dans la rue ou à la maison. » Merci beaucoup d'être venu au micro de Vivante Église et de nous avoir profité de toute votre science. À nos auditeurs, merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.